tous et bienvenue autour de votre grande table dans la deuxième partie de l'émission à partir de 12h55. Rendez-vous avec la numéricienne Aurélie Jean, chercheuse et entrepreneur. Elle publie aujourd'hui De l'autre côté de la machine aux éditions de l'Observatoire. Un voyage éveillé au cœur des équations mathématiques et des lignes de code, des algorithmes, le virtuel comme porte d'entrée sur le réel. Nous en parlerons avec notre invité donc dans la deuxième partie de l'émission. Mais d'abord, les nouvelles vagues d'Anne Diatkine. Oubliée au seuil, prix Médicis Essai. Elle a coécrit ce livre avec l'actrice fétiche de Jacques Rivette, de Patrice Chéreau ou encore de Luc Bondy, Bulogier. La journaliste Anne Diatkine est notre invitée. À écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard, si vous le souhaitez, sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Gesbert.
Et bonjour Anne Diatkine.
Bonjour Olivia.
Merci d'être avec nous. C'est pas vraiment un travail de biographe, hein, c'est plutôt un travail d'accoucheuse de souvenirs, d'accompagnatrice dans le passé, d'aide-mémoire que vous avez menée avec Bulogier.
Oui, effectivement, on n'avait pas du tout envie d'écrire une biographie. Et d'ailleurs, si on devait faire ce livre aujourd'hui, ce ne serait pas du tout le même livre puisqu'on partait du présent. Or, aujourd'hui, par exemple, je suis sûre que Bull, qui a été très bouleversé par la disparition d'Anna Karina, me parlerait d'Anna Karina. Et donc, on parlerait sans doute du film qu'elles ont tourné ensemble, Rendez-vous à Bray, d'André Delvaux. Or là, on parlait aussi de ce qu'elle faisait au jour le jour. Surtout, Bull me disait, je peux pas écrire ma biographie. Car j'ai tout oublié, j'ai oublié. Donc ça a tout de suite été le titre du livre.
Elle a vraiment oublié certaines choses, à certains moments.
Je pense qu'elle a beaucoup oublié et que les choses reviennent. Et on ne sait pas quand elles reviennent, on ne sait pas ce qui provoque la mémoire. La mémoire, elle est mouvante. Et toutes les deux, on n'a pas relu le livre, aucune de nous deux. Et donc on ne sait plus trop ce qu'il y a dans le livre. On s'est interdit de le relire.
Vous vous êtes autorisé à oublier, déjà.
On s'est autorisé à l'oublier.
C'est donc beaucoup de fragments, beaucoup de souvenirs quand même qu'elle vous raconte. Comment vous avez réussi à faire remonter ces souvenirs à la surface? Vous dites on ne sait pas comment, mais c'est reparti de photos, d'images, de films, d'anecdotes que vous aviez vues ou lues dans la presse en faisant un travail d'archivage.
Alors, assez peu. On était devant des verres d'eau. On n'a pas du tout regardé de photos, en tout cas pas au début. Elle m'a montré des photos, Bull, quand le livre était déjà écrit, donc très tard. Et je lui avais demandé de parler, le premier rendez-vous, je lui ai demandé si elle pouvait parler de cet appartement où elle vivait depuis 50 ans, où elle vit depuis 50 ans toujours. Et c'est parti de là. Et je pensais qu'on pouvait partir des lieux, en fait. Donc le livre est parti de l'appartement où elle vit, qui a beaucoup... Parce que Bull n'arrête pas de déménager chez elle, dans son propre...
Oui, elle le raconte, c'est presque un appartement modulable, élastique.
Élastique.
Ouais. Qu'elle a pris, c'est vraiment aussi petit qu'elle le raconte?
Bah, ça a été petit, c'est plus grand, ça bouge. Ça bouge parce que aussi les impressions bougent, la façon d'être chez soi bouge, la façon de vivre et le... Donc, voilà. Et puis, j'ai beaucoup, beaucoup regardé ses films. Alors, la filmographie de Bull, elle est particulière parce que, à la fois, d'abord, tous les films sont intéressants. C'est aussi pour ça que j'avais très envie de faire un livre avec Bulogier. C'est que tous les films sont intéressants sans qu'on ait le sentiment qu'elle ait prémédité les choses. Sans qu'on ait le sentiment qu'elle s'est dit, tiens, je vais. Qu'il y ait une volonté très, très active. Mais en même temps, pour beaucoup d'entre eux, ces films sont invisibles ou difficiles à voir. C'est le cas des films de Werner Schroeter, Flocon d'or par exemple. Mais c'est pas le seul. Mais j'ai beaucoup regardé les films en fait pour discuter avec Bull.
Pour l'aider à se raconter. Perelle disait, je me souviens, Bullogier vous dit donc, j'ai oublié. Quel rapport au fond entretient-elle avec son passé? Mélancolique, nostalgique?
Non, pas du tout. Elle est absolument dans le présent. Elle n'est pas du tout mélancolique, même si, voilà, en fait, il y avait une injonction contradictoire. C'est que la seule chose que m'a demandé Bulle, c'est que ça soit léger et drôle. Et en même temps, tout de suite, elle racontait une histoire horrible, très triste, quand elle me disait ça, juste après ou juste avant de me dire ça. Mais je savais donc, enfin, voilà, qu'il fallait... Enfin, non, elle n'est pas mélancolique. Elle a un regard de côté. Elle est... Bon, Bulle, c'est une grâce, quoi. C'est une façon très particulière d'être au monde. Et c'est une façon d'être où à la fois elle laisse aller les choses et en même temps, ce qui est frappant, c'est qu'elle a travaillé avec des cinéastes qui lui demandaient d'être au contraire très active, de fabriquer ses personnages, par exemple.
Et c'est vrai qu'on l'a beaucoup associé à son rôle, Andy Atkin, de Rosemonde dans La Salamandre d'Alain Tanner. Et ça lui va bien. Écoutez un extrait de la bande-annonce du film.
J'ai 23 ans. Depuis mon enfant, je me débrouille seule et ça me plaît. Les gens détestent mon indépendance et essaient toujours de me briser. Ils disent de moi que je suis paresseuse, sauvage.
Madame.
Comte paysan.
C'est toi, hein? T'as tiré sur nous.
Ressemblait à Laurel et Hardy.
Y'a qu'elle qui puisse nous tirer d'affaire.
On m'a dit une fois que je pourrais être hôtesse, j'étais assez jolie pour ça.
T'es pas un peu folle? On va te faire vider si tu continues.
Voilà, là on entend un peu ce que vous évoquez, ce côté déplacé. C'est vraiment une femme, une actrice qui vit un tout petit peu à côté, tout le temps des autres, des trajectoires communes.
Oui, mais en même temps, ce qui est frappant, c'est que vous prenez n'importe quel film et vous vous dites, tiens, c'est Bulle, c'est absolument Bulle. Et les rôles sont extrêmement différents. Donc on l'a associé à La Salamandre, effectivement, beaucoup, Bulle. Peut-être à cause de cette manière aussi de regarder, pas forcément frontalement, et puis de s'amuser beaucoup de tout. Voilà,
En même temps, elle le dit, elle mettait beaucoup, beaucoup d'elle aussi dans ses rôles. Hein. Après 60 ans de métier, je ne sais toujours pas si ce sont les rôles qui modèlent ce que je suis ou moi qui influence sur eux. Écrivez-vous. À propos de Vénus Beauté de Tony Marshall, sorti en 99, où elle dirige l'Institut de Beauté, son film peut-être le plus populaire, celle qui fait qu'on la reconnaît aujourd'hui, en tout cas dans la rue, elle vous confie avoir expérimenté là un rôle dans lequel il a été impossible pour elle d'introduire le moindre morceau de moi, de mon moi d'ailleurs. Voilà ce qu'elle vous dit.
Oui, c'est vraiment la phrase exacte d'ailleurs. C'est exactement ce qu'elle m'a dit. Parce que c'est une excellente actrice, en fait, elle n'a pas du tout besoin de jouer elle. Effectivement, c'est nous qui projetons sur elle qu'elle joue elle-même. En fait, elle se glisse non seulement dans les personnages, mais dans le regard que l'autre a sur elle. Dans le regard de Duras, dans le regard de Rivette, dans le regard de Barbet Schroeder, qui d'ailleurs lui a aussi donné un rôle de dominatrice dans Maîtresse, et on n'imagine pas du tout Bulle dominatrice. Or pourtant, en tout cas dans la manière dont son personnage tombe amoureuse de Gérard Depardieu, on la voit elle.
Barbet Schroeder, qui est le grand amour de sa vie, elle le dit d'ailleurs, hein, elle est une actrice de cinémathèque. C'est d'ailleurs en fait une actrice qui aime se laisser porter par le regard du réalisateur aussi, avec des réalisateurs qui ont renvoyé sur elle toute leur subjectivité. Hein. Elle fait partie pour vous de cette génération d'actrices qu'on retrouve peut-être moins aujourd'hui, ces actrices aussi qui allaient vers des films... difficile. Il y a un moment, son agent qui lui dit que quand on lui proposait un film qui pouvait faire plus de 100 spectateurs, enfin, il lui disait « Vous n'allez quand même pas faire ça, Bulle. »
Oui, hein, c'est une boutade, mais ça s'est vraiment produit. Il y avait... cette idée de Bulle qui faisait des films underground. Et effectivement, elle a fait par exemple un film de Claude Lelouch et elle me disait « Ah, mais c'est le film expérimental de Claude Lelouch. » Je ne sais pas s'il a bien marché. Je ne l'ai pas vu ce film. Mais oui, effectivement, quand on regarde sa filmographie, il n'y a pas non plus d'immenses succès à part La Salamandre et sûrement d'autres films, pardon. Mais je voulais parler de La Salamandre parce que c'est un film qui a pu rester un an ou deux ans au Saint-André-des-Arts et je pense que c'est ça la grosse différence, la grande différence, c'est que les films pouvaient rester très longtemps.
Dana Carina, vous diriez aussi que c'était une actrice de cinémathèque ?
Oui, c'est une actrice de cinémathèque dans le sens où on pourrait organiser une rétrospective à Dana Carina et on verrait des films très intéressants. Donc je dirais ça. Mais c'est une actrice peut-être plus volontaire. Moi, ce qui me frappe chez Dana Carina, bon, elle parlait vraiment des films qu'elle a fait, de sa rencontre avec Jean-Luc Godard et des films qu'elle a fait avec lui. C'était difficile pour elle de parler d'autre chose. Elle était vraiment fixée sur ses années, sur sa filmographie magique, en fait, sur ses sept films. Je pense que le 7, c'est vrai. J'espère ne pas me tromper. Mais en fait, elle avait fait plein de choses avant. Il faut imaginer quand même qu'Anna Karina, c'est une jeune fille qui a quitté l'école à 13 ans et qui a commencé à travailler dès 13 ans et qui a même, quand je dis plein de choses, c'est pas forcément des choses importantes ou qui marquent, mais qui marquent quand même une vie. Enfin, de commencer, de travailler pour un illustrateur, de dessiner soi-même, d'être jeune fille d'ascenseur dans un grand magasin, de partir en stop à Paris alors qu'on parle pas français. Et maintenant, je regrette un petit peu de jamais lui avoir posé de questions sur ce voyage. C'est quand même étonnant de partir à 17 ans comme ça, pour une ville dont on parle pas la langue, dans l'idée de devenir actrice, mais en n'ayant aucun point de chute, aucun repère. Et c'est dans ce contexte-là que tout de suite, tout devient extraordinaire, puisque au bout d'un mois, elle est baptisée par Coco Chanel Anna Karina. Elle fait des photos et elle gagne bien sa vie et elle rencontre Godard finalement très peu de temps, c'est-à-dire que tout bascule très vite pour elle. C'est étonnant, la vie d'Anna Karina est étonnante, je trouve.
Oui, d'autant que vous la racontez dans un très beau portrait que vous lui consacrez, que vous lui avez consacré ce mois-ci, juste après sa mort, puisqu'Anna Karina est disparue cette année. Vous racontez qu'elle, au début, à Paris, elle fait la manche. C'est là qu'elle va être repérée et que tout va effectivement aller très vite, mais que quand elle va tourner, ou en tout cas Godard lui propose ce premier grand rôle, elle le refuse, ou elle le refuse pas, elle l'accepte le deuxième, mais elle est encore mineure, donc elle peut pas signer le contrat. Hein.
Non, elle peut pas signer le contrat. Le premier, c'était un tout petit rôle dans Un bout de souffle, et elle le refuse. Mais tout ce que je sais d'Anna Karina, je le sais d'Anna Karina elle-même. Donc c'est elle qui m'avait raconté qu'effectivement, elle dessinait sur le trottoir à la craie. Et ce qui m'a d'ailleurs rappelé qu'il y a une scène dans Pierrot le Fou où elle dessine à la craie sur le trottoir aussi. Voilà. Donc, excusez-moi, votre question
c'était... Non, c'était une précision pour raconter effectivement, vous dites toute cette tranche de vie qu'elle a eue avant d'avoir ses premiers grands rôles, elle était encore mineure. Toute l'époque est quand même là, avec Bulogier, avec Anna Karina, hein. Toute l'époque est là, avec Bulogier, c'est Alain Tanner, c'est Rivette, c'est Romère, c'est Barbette Schroeder au cinéma, c'est Marc O, Marguerite Duras, oui. Claude Régis, Patrice Chéreau au théâtre, c'est les copains, comme Pierre Clémenti ou Jean-Pierre Calfon et Bernadette Lafont, sa grande... amie comédienne, elle aimait cette famille-là, hein, cette famille de cinéma, et elle disait d'ailleurs qu'avec ses actrices, elle n'éprouvait pour elle aucune rivalité. On va écouter un extrait du film de Jacques Rivette, La bande des quatre.
Et toi, Anna, qu'est-ce que tu penses ?
Je sais pas. Je sais que ça va pas, mais...
Mais quand on est amoureux, ça se voit ?
En tout cas, ça devrait se voir.
Si on sent pas la situation... On voit rien. Tu as déjà été en colère, Anna ?
Oui, bien sûr.
La colère, c'est pas un bloc uniforme.
Une colère, ça monte. Le sang se met à battre très fort. Mmh. Alors que ta colère, à toi, elle était extérieure. C'était un bloc, comme ça.
Bah, pourtant, je croyais bien avoir donné ça.
Non, mais ici, on croit pas. On sent. Il faut éprouver. Le théâtre, c'est une série d'épreuves.
Est-ce que je peux poser une question? Ça fait 3 semaines qu'on est sur ce début. Et moi, je comprends pas. Quand j'ai passé Sylvia, j'ai fait exactement ce que vous venez de dire. La colère, la rage et vous m'avez dit...
Je t'ai reprise parce que tu jouais pas la colère de Sylvia, tu jouais ta colère à toi. Alors qu'il faut exprimer les mots. Et les mots, ce sont pas tes mots, ce sont les mots de Marivaux.
Quoi qu'on fasse, c'est jamais bien.
Non, c'est jamais bien. Quelquefois.
Alors là, c'est pas un film dans le film, c'est le théâtre au cinéma, dans ce film de Jacques Rivette sorti à la fin des années 80, où Bulogier joue le rôle d'une professeure d'art dramatique. Qu'est-ce qu'elle investissait sur les planches, dans le cinéma, au théâtre? Est-ce qu'elle percevait ça comme une série d'épreuves, comme évoqué dans cet extrait? Ou est-ce qu'elle a toujours joué, incarné tous ces personnages avec une légèreté, une facilité?
Alors, Bulle, il faut en parler au présent, bien sûr, parce qu'elle va jouer encore et elle va tourner encore. Bulle, elle est hyper scrupuleuse. Donc, rien n'est facile, contrairement à la nonchalance affichée. Donc, et ce qui est intéressant dans l'extrait, j'adore ce film, La bande des quatre, c'est qu'on voit que Bulle joue pas du tout son rôle et elle le joue formidablement bien. Elle joue le rôle d'une enseignante alors qu'elle a horreur de l'idée de donner le moindre conseil, d'être injonctive. Je pense que c'est des propos qui viennent de Louis Jouvet, en fait, le texte. Mais elle le fait formidablement.
Elle vous raconte aussi qu'elle déteste apprendre ses rôles, hein, se mettre sur un canapé et répéter seule dans une pièce les phrases, les répliques qu'elle doit apprendre.
Mais je pense qu'elle adore jouer en même temps. Donc vous me disiez qu'est-ce qu'elle investit sur scène et qu'est-ce qu'elle investit dans ses rôles. Peut-être l'oubli de soi, justement, et puis le plaisir d'être avec les autres. Le plaisir d'être avec des personnes qu'elle aime et qu'elle admire. On parlait d'Anna Karina tout à l'heure, enfin il y a 5 minutes, et c'est drôle parce que de Anna Karina, on a beaucoup dit qu'elle avait été une muse ou qu'elle était une muse, même si je pense qu'elle est presque co-auteur des films de Godard, enfin en tout cas on parle des Anna Karina, et on dirait pas ça de Bulle, on dirait pas de Bulle qu'elle est une muse, ce qui est pas du tout négatif, mais parce qu'elle est, enfin oui, ce qui est fascinant chez Bulle, c'est qu'elle adore Lou. Elle dit toujours qu'elle adore ne rien faire, mais que dès qu'elle fait quelque chose, elle est ultra active, ultra précise.
À propos de Terre étrangère d'Arthur Schnitzler, mise en scène par Luc Bondy en 1994, elle vous dit « Je n'ai jamais oublié l'unique fois où j'ai pensé qu'un rôle était pour moi ». C'était cette fois-là en tout cas. Hein. C'est comme si elle n'avait jamais vraiment cherché ce qui lui était arrivé dans la vie, qu'elle l'accueillit en fait, rôle après rôle, rencontre après rencontre. Elles avaient en commun de flotter, comme l'a dit un jour Claude Régis à Bulle avec Anna Karina. Bulogier, c'est parti quand même de ce que Duras appelait non pas la nouvelle vague, mais la vague absolue, hein, ces actrices dont on n'oublie pas à la fois l'image, le regard, l'intensité du sourire. Pourquoi ces femmes ou ces actrices vous parlent particulièrement à vous, Anne Diatkin?
Bulle, alors pourquoi est-ce que Bulle me parle?
Parce que au sens propre et oui. Au sens figuré.
Oui.
Pourquoi vous vous intéressez à elle?
Bulle, parce que elle me semble très en opposition avec toutes les valeurs qu'on défend aujourd'hui. Et ça me plaisait d'écrire un livre à deux. Elle me semble en opposition avec... Parce qu'aujourd'hui, on dit oui, il faut décider, il faut être... Il faut maîtriser ce qu'on fait, il faut être maître de son destin, il faut... Et j'adorais sa manière d'être, et j'adore toujours sa manière d'être, de regarder les choses en fait, de regarder les choses arriver, de les saisir, et de pas se situer en rivalité aussi, jamais. Enfin, j'aimais l'idée de faire un livre à deux, et qu'il soit vraiment à deux, c'est-à-dire qu'on ne puisse pas dire, tiens, c'est une parole... disons que... Il n'y en avait pas une qui était assujettie à l'autre. On était complètement ensemble. J'entendais sa voix quand j'écrivais. Et je décryptais ce qu'elle me disait. J'entendais sa manière de parler qui est particulière, qui est de regarder aussi les choses. Et voilà, ça me plaisait. Enfin, ça me plaisait aussi d'effacer un peu la notion d'auteur. Parce que c'est vrai que je disais que Bull, peut-être qu'elle s'oublie elle quand elle joue, comme on oublie un peu qui on est quand on parle ou quand on écrit, et que c'est toujours bien quand on lâche prise.
Bullogie avec Anne Diatkinje, oubliée, qui est apparue au Seuil, Prix Médicis Essai, c'est votre livre écrit ensemble. On va écouter, puisque vous parlez de sa voix très particulière, on va écouter Bullogier à propos des filles d'aujourd'hui, par rapport aux filles d'hier. Il faut dire qu'elle se raconte comme actrice, mais elle se raconte aussi comme femme, et tout n'est pas si simple. Elle a vécu quand même des moments extrêmement difficiles, des viols, deux, qu'elle vous raconte aussi. Elle a été mère très très tôt, alors elle a eu cette relation fusionnelle très proche de sa fille Pascal, mais être fille-mère, c'était pas si simple. Et ça aussi, elle vous le confie. Tout au long de ces lignes où elle se raconte, il y a aussi effectivement la présence de sa fille qui plane, qui est décédée jeune, à 25 ans. On va écouter Bullogier sur les filles d'aujourd'hui.
C'était donc Pascal Augier, sa fille.
Pascal Augier. Là, on va écouter Bull. C'était à l'occasion d'Un amour impossible, pièce de Christine Angot, mise en scène par Céline Pote, qu'elle interprétait. Elle jouait la mère. C'était en mars 2017 au Théâtre de l'Odéon.
Je pense qu'on a fait, heureusement, un énorme saut. Mais énorme, depuis que j'ai 17-18 ans. Et depuis que j'ai eu ma fille, enfin tout ça a changé depuis que la pilule est arrivée. Enfin, il y a eu beaucoup de choses qui ont fait que les femmes sont devenues beaucoup plus indépendantes sur la naissance de leurs enfants, sur la volonté d'avoir un enfant ou de ne pas en avoir, et qu'il y a eu beaucoup de progrès, mais la différence sociale, elle existe toujours.
Voilà, beaucoup de progrès, mais quand même une différence entre hommes et femmes, des inégalités qui persistent, nous disait-elle, autour de cette grande table. Quelle femme était-elle, et surtout, était-elle féministe, Anne Diatkinje?
Vous parlez de Bull?
Oui.
Si elle est féministe?
Oui. Je le mets au passé parce que c'est quand même des souvenirs. Elle est évidemment présente, mais là, elle se raconte dans le passé. C'est des souvenirs que vous faites remonter ensemble. Et elle vous raconte notamment sa relation avec les féministes du MLF.
Hein. Oui.
Elle vous dit « J'étais disponible lorsque mon aide était requise », dit Bullogier. Mais elle raconte aussi qu'à l'époque, être féministe, c'était quand même un gros mot. C'est pas, elle ne se revendiquait pas comme telle.
Je sais pas, elle a signé le manifeste, le fameux manifeste donc des 300, combien elles sont ?
343, je sais plus non plus, 3, oui.
343 salopes, donc qui est paru dans le Nouvel Observateur. Effectivement, alors, oui, c'est une question qui me trouble. Oui, bien sûr, Bull est féministe, mais elle est féministe sans l'avoir tellement dit non plus, quoi. C'est-à-dire que elle est féministe par sa manière de vivre. Mais en revanche, quand on a parlé vous évoquez ces deux viols, c'est elle qui m'en a parlé pour le premier. Je lui ai dit, oh, t'es sûre, est-ce qu'on l'écrit? Elle me dit, oui, ben oui, ça fait partie de ma vie. Donc, je l'ai écrit tel qu'elle me l'a dit. Et le deuxième, c'est un souvenir qui est remonté. Qui est reparti aussitôt. C'est-à-dire, elle me dit, c'est drôle, je me souviens que je me suis faite violer. Il y a eu un deuxième viol, mais je me souvenais très bien hier des circonstances, de qui. Et là, j'ai tout oublié. J'ai joué Un amour impossible, justement, de Christine Angot, monté par Céline Pote. Et impossible de me souvenir de ce dont je me souvenais bien hier, qui était revenu. Et puis finalement, je lui ai dit, ben c'est pas grave, je vais l'écrire tel quel. Le livre s'appelle « J'ai oublié ». Et on va l'écrire tel quel. Et c'est revenu. Et elle me disait, Oui, mais il faut que ça soit drôle. Il faut que tu le racontes, mais que ça soit drôle. Et donc, c'est ça. Est-ce que c'est une forme de... Et puis, elle avait très peur que si je... qu'on puisse retrouver la personne. Or, les féministes, enfin, c'est pas tellement à la mode, ça, d'avoir très peur que son agresseur soit ennuyé. Enfin, elle voulait... Oui, bien sûr, Bulle est féministe, mais ça n'empêche pas d'avoir une façon très, très singulière d'envisager les drames. Parce que dans les deux cas, ce qui m'avait frappé, c'est que dans les deux cas, ces deux viols, c'était des situations où elle ne pouvait absolument pas aller au commissariat pour s'en plaindre ou pour déposer plainte. Parce que parce qu'elle était dans des situations d'inégalité, enfin d'illégalité plutôt. Mmh. C'est-à-dire que la première fois, c'était une histoire d'avortement. Or, l'avortement était interdit, était illégal. Donc, elle a été agressée par le médecin qui l'avortait.
Et la deuxième fois, c'était un petit sachet de poudre blanche qui était tombé de sa poche et qu'il avait mis dans une mauvaise position par rapport à ce policier, ce commissaire qui lui a fait du chantage.
Qui était là pour ça, oui. Ouais. Qui était là pour...
Elle l'a raconté à personne, d'ailleurs, sur le maman, elle le dit aussi, et pas non plus à l'homme de sa vie, à Barbet Schroeder. Il y a de la souffrance, oui, dit-elle, il y a eu de la souffrance entre eux, mais il n'y a pas eu d'incertitude. J'ai toujours su que c'était l'homme de ma vie, et réciproquement, aujourd'hui encore, ils sont ensemble et ils s'aiment. Autre point commun hein, entre elle et Anna Karina, parce que vous le racontez, Anna Karina, quel que soit le chemin emprunté, elle en revenait toujours à Godard. J'ai oublié, c'est le titre de ce récit autobiographique que vous signez au Seuil, Anne Diatkin avec Bulogier. Anna Karina, souviens-toi, c'est le titre du film que son dernier mari, Denis Berry, sorti il y a 2 ans, lui a consacré. Souviens-toi, oublié, au fond, est-ce que les vrais souvenirs se partagent vraiment pour vous, Anne Diatkin?
Alors, oui, quand ils prennent la forme de l'oubli, justement, c'est-à-dire quand on ne sait pas ce qui va arriver, ce qui va surgir. C'est pour ça que c'est plus un livre de mémoire qu'un livre de souvenirs, en fait. On avait peur toutes les deux de la récitation, Bulle et moi. Et il n'y avait aucun risque, d'ailleurs, puisque on savait pas. On connaissait un petit peu les étapes, mais on ne savait pas le chemin pour y arriver. Et donc oui, je crois qu'on l'a vraiment partagé, ce livre. Et on l'a vraiment partagé, c'est cette mémoire et cette manière d'être au monde, toutes les deux. Et c'est vrai que aussi avec les éditeurs du livre, c'est-à-dire avec Mireille Paolini et Bernard Coman.
Vous avez mené cette aventure ensemble et entre les lignes, il y a un rapport incroyable à la liberté qu'on peut ressentir de cette femme. Merci beaucoup à vous, Anne Diatkin, d'être venue nous en parler. Merci.
Merci à vous, Olivia.